Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4. Nous sommes en direct ce soir le 12 octobre entre 19h et 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion sur Radio Galère le 13 octobre entre 9h et 10h ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr lorsque vous le tapez sur internet. Vous écoutez Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires à Marseille et sa région. Et je suis Marin, je suis accompagné ce soir de Chloé.
Bonsoir.
De Camille qui est en régie et nous recevons Sophie et Karine qui nous présentent les Tanantes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, avec Chloé, quand on a préparé un petit peu cette émission, on l'a préparé un peu comme quand on va dans une brocante ou quand on fait du troc. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait avoir une première partie où on allait un peu piocher des questions un peu à droite à gauche pour savoir un peu ce que vous faites, quelle est votre association, quel est son but, etc. Donc ça sera la première partie de notre émission. La deuxième partie visera à prendre un petit peu de recul et à réfléchir sur comment est-ce que tout ce que vous proposez s'inscrit dans des modèles alternatifs qui peuvent proposer des nouveaux imaginaires de société qui sont plus solidaires et plus responsables. Et puis la dernière partie d'émission, ça sera la lecture d'une lettre ouverte au maire. Mais ça, on vous laisse la surprise pour plus tard. Alors, sans plus attendre, je vous laisse peut-être vous présenter, toutes les deux, dire qui vous êtes.
Ok, donc bonsoir, Karine, présidente et très très active au sein de l'association Les Tanantes, et donc...
Et moi, Sophie Garcia, membre active, je dirais même hyper active, de l'association Les Tanantes.
Donc je peux vous faire une petite présentation donc, de l'association qui est avant tout une association de personnes surmotivées avec des idées singulières qui mettent souvent en avant des événements éco-responsable autour de la notion de l'anti-gaspi. Particulièrement à Marseille, on organise des troqueries. Donc, c'est des échanges de fringues entre personnes, monsieur et madame, tout le monde, dans des lieux plus ou moins connus. Ça peut être la brasserie communale, le Coco Velten, le couvent. On décide peut-être prochainement dans la rue directement au niveau public, quoi, dans des parcs. Et on organise deux troqueries par année au changement de saison au printemps et à l'automne. Et là, on pense aussi à du développement pour en faire une spéciale enfant, parce qu'on nous a fait des demandes. Et en dehors de ça, on organise également des ateliers ludiques et pédagogiques pour tous, des apéros, des goûters, des booms. On aime beaucoup organiser des événements sans prétention, rigolos. Qui permettent aux gens d'être à l'aise et en même temps de rigoler et d'avancer joyeusement autour de notions qui peuvent être, par exemple, en l'occurrence, le troc.
Alors, comment ça se passe une troquerie ? Là, un matin où j'arrive en me disant « Ok, j'ai envie d'aller à la troquerie des Tanantes, comment est-ce que... Oui, » voilà. Comment est-ce que vous allez m'accompagner ? Qui est-ce que je vais trouver sur mon chemin ?
Ok. À chaque événement, bon, déjà, normalement, on lance quand même des événements sur Facebook, à peu près comme toute personne qui organise un événement dernièrement. Mm-hmm. Et on a un Instagram également. Et l'idée de base, c'est, exemple, on décide que c'est 10 vêtements. Cette fois-ci, ça peut être 15 une autre fois. Bon, il y a une troquerie, exemple, dans 2 semaines, tu arrives avec un énoncé qui était « ramène 10 vêtements » et non troués, non tachés, enfin, des vêtements quand même que tu as envie d'échanger. Sur place, il n'y a plus qu'à se présenter. On est là, on accueille les gens avec le sourire et la bonne humeur et on prend en considération le fait que tu arrives avec 10 vêtements. Sur ton poignet, on écrit 10. Et après, tu n'as plus qu'à poser sur des tables qui sont, elles, mises en valeur par des couleurs. Donc, parce que les tris des vêtements se font ni par le sexe ni par les tailles. C'est vraiment que par couleur. On évite comme ça le côté « je suis gros, je suis maigre, je me sens pas bien, peu importe. Je suis un homme, je suis une femme. » En fait, il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est tu as le droit d'avoir 4 ans, de vouloir un vêtement rouge en XL. Enfin, tous les droits sont OK. Vous vous servez, vous allez essayer et si ça vous va, vous repartez. Et vraiment, c'est aussi simple que ça. On pose nos habits, on en prend d'autres, on en prend 10 parce que c'est écrit sur notre poignet, on repart avec et c'est génial. Et en général, on fait une petite animation au niveau du vestiaire parce que c'est rigolo.
Et si les vêtements ne sont pas tous partis, est-ce que la personne repart avec ou du coup, elles sont laissées pour des associations
Alors, on a vécu les deux cas de figure. Des gens qui voulaient repartir avec leurs vêtements, on ne les interdit pas de repartir avec, mais quand même la plupart du temps, les gens laissent leurs vêtements sur place et nous, on les redistribue à des associations, plutôt des associations de quartier, des œuvres de charité, des friperies, mais qui sont vraiment plus dans le côté caritatif que trop financier, quoi. Par exemple, la dernière fois, on a laissé les vêtements à Coco-Beltaine. Il y a un espace avec de la gratuité pour et les gens qui viennent sur place et les gens qui vivent à côté de SOS, SOS juste à côté, le groupe SOS, par exemple. Mais on a pu les laisser aussi dans une friperie, une nouvelle friperie qui s'appelle la friperie Belzins, rue Nationale. C'est des petites friperies, finalement.
Ah, vous avez à cœur, parce qu'en préparant la mission, là, tout à l'heure, vous avez vraiment à cœur de laisser ça des petites structures, justement, que...
Bah oui, parce que comme les gens viennent, quelque part, oui, échanger, mais aussi, s'ils laissent des choses, c'est gratuit. Mmh. L'idée derrière, c'est pas forcément que ni nous, on en sorte financièrement quelque chose, ni complètement d'autres grosses structures. Mais pas que. On les redonne aussi pour des ateliers, soit qu'on donne sur le moment... genre Cœur de Cagole, qui elles font éponges avec du tissu récupéré, entre autres. Et où, pour les ateliers futurs, on garde certains habits pour faire des ateliers. Enfin, ça peut être aussi réutilisé, donc dans le principe du réemploi.
Et quand vous parlez de troc, alors on troque uniquement des vêtements ou on troque aussi, on peut troquer des vêtements pour autre chose ou quel est le concept?
On essaie de rester principalement sur le vêtement. Après, les accessoires aussi peuvent... être accepté, mais nous, c'est vraiment notre spécialité, je dirais, le vêtement. En effet, hein, si ça marche trop trop bien et qu'on nous demande de venir troquer, je sais pas, du maquillage,
oui. Parce que j'avais vu des mettre en place, plantes, voilà. Des choses comme ça, c'est toujours d'actualité ou...
On a eu fait en fait des échanges de boutures en même temps. C'était plus en partenariat avec d'autres acteurs. Donc, il y avait et vêtements et sur le côté échange de boutures. On a fait à la Saint-Valentin l'année dernière un échange de cadeaux de ton ex que tu n'as pas aimé.
Génial.
Où tu viens te faire plaquer comme une vraie ou un vrai et tu es dégoûté. Mais du coup, ce cadeau, tu le détestes à la fois. Tu as quand même une petite nostalgie. Puis tu voudrais pas repartir sans rien.
Et tu ne l'as pas encore jeté, donc.
Tu l'échanges,
ça arrive
tu donnes
souvent
à quelqu'un
après Noël.
Voilà.
Quand on vend des cadeaux.
Donc,
dans ton
on l'a fait aussi.
Ah,
après
génial.
Noël à Coco-Beltaine, justement. Donc c'était emmène le cadeau de Noël que tu as détesté de ta belle-mère, par exemple.
C'est dans le cadre de vos événements rigolos, ça, ou c'est encore autre
chose?
Il y a
toujours... Non,
ils
c'est
tous
toujours...
rigolos.
Voilà. Il y a toujours un truc un peu drôle quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au pire, on va être déguisé à l'entrée, quoi. Mais il y a quand même toujours un truc drôle... La dernière fois, il fallait pédaler pour te faire un smoothie avant d'aller faire du tri. Enfin, c'était donc tout le monde était un peu transpirant, c'était marrant.
Ouais. Trop bien. Et alors, du coup, qui participe? Moi, j'aimerais. Là, vous êtes toutes les deux. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes qui sont des petites mains qui vous aident dans l'assaut. Et puis ensuite, qui participe aux événements? Quel est le public cible, s'il y en a un ou si c'est hyper hétéroclite?
On a Océane et qui est secrétaire, trésorière
de l'association.
Voilà, il y a Céline aussi, qui sont toutes les deux de très bonnes amies à nous, qui organisent généralement tous les événements avec nous. Après, on est accompagné de bénévoles. On accepte tout nouveau membre, ceux qui voudraient nous accompagner.
Oui, je me permets de rebondir. Ouais. Souvent, les bénévoles, d'ailleurs, c'est plutôt des personnes un peu qui aiment le textile, qui aiment les fringues, qui ont envie... en fait, de participer à cette action-là, mais aussi de voir ce qui passe avant d'arriver sur les tables. Et ces bénévoles-là, c'est les premières personnes qu'on avait rencontrées à la première troquerie qu'on avait organisée à Coco-Beltaine il y a 3 ans. Donc, qui sont restés, qui reviennent de façon récurrente. Tu demandais le public cible. On ne va pas se mentir, c'est souvent plus féminin. Et souvent entre 25-35 ans, ça c'est à peu près ça, qu'on n'avait pas ciblé en fait à la base, hein, qui s'est fait comme ça, et on a très à cœur de développer ça sur un côté aussi plus d'hommes, en tout cas, sans parler de genre, hein, mais c'est quand même une réalité, et enfants, parce qu'on sait qu'il y a un besoin, même bébé quoi, échange de fringues entre bébés, non, mais entre parents ça se fait bien.
Du coup, c'est pas un public uniquement qui décide de consommer autrement. C'est une vraie nécessité et c'est un vrai besoin de consommer des.
Ouais, il y a de ce qu'on a observé, il y a et consommer autrement effectivement, et il y a aussi Il y a aussi de la... Alors, c'est un peu marrant, il y a un côté un peu psychologique. On a aussi pas mal de fashionistas, si on doit faire simple, qui achètent trop et qui reviennent pour un peu se déculpabiliser, ce qui est OK, parce qu'on a eu des grosses discussions avec certaines personnes, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, et qui arrivent en disant « j'ai un peu craqué, j'ai acheté trop de trucs chez H&M, j'ai acheté ça, je ne sais plus trop quoi en faire, je m'en veux un peu, je viens changer ça ». Et du coup, en parler et arrêter de le faire après avoir participé à une troquerie, c'est arrivé. Donc, il y a un peu tout type de profil. Oui, j'achète en friperie, j'échange, j'ai des vieux fringues, je veux me changer, j'ai envie d'avoir un nouveau style. Enfin, c'est vraiment très aléatoire quand même dans le public cible.
Et vous deux, quelle a été la cause pour laquelle vous avez décidé de vous retrouver pour créer cette association qui est, il y a bien une volonté de départ. Est-ce que c'est l'amour de la mode? Est-ce que c'est... On en parlera plus loin, mais est-ce que c'est une volonté de lutter contre un certain nombre de stéréotypes, notamment de genre? Parce que je sens dans votre discours que c'est un peu sous-jacent, mais je vous propose qu'on en parle en deuxième partie. Quelles ont été les causes de votre engagement?
Je me permets de dire même de genre, mais même... en fait, c'est indiqué par couleur. Les couleurs sont écrites et sont coloriées. Parce que du coup, en plusieurs langues aussi, c'est d'essayer de faire la chose la plus simple possible et la plus accessible aussi, en plus du non-genre. Qu'est-ce qui nous a motivés? On adore récupérer des trucs. Je pense qu'on n'a on a pas le syndrome de Diogène, mais
on n'est pas loin.
Et moi, j'ai toujours été habillée avec les fringues de mes deux grandes sœurs. J'ai toujours avec mes copines des échanges de fringues. Et du coup, c'était assez évident. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Quasi tous des habits sur nous, quand même. Je veux dire, la majorité des gens marchent dans la rue avec des vêtements. Mais du coup, ça peut parler à tout le monde assez facilement. Et en même temps, on n'a peut-être pas tous ni le budget, ni l'envie d'aller faire les magasins. Que les friperies, il y a des gens qui adorent ça, mais d'autres qui trouvent que c'est chiant, que c'est sale, que peu importe, chacun ses raisons. Et là, il y a un côté un peu convivial, marrant dans l'échange, qui est le troc, c'est vieux comme le monde, on n'a rien inventé, donc se baser sur ça, c'était bien pour nous. Et comme cet asso, elle avait déjà, avant on habitait au Québec, elle existait pendant 10 ans, sous un autre nom.
C'est pour ça le C'est OK.
Voilà, C'est OK, et les Tanantes aussi. Et du coup, on est arrivé en France en se disant, OK, on organisait des événements, c'était plutôt festif. Mais il y avait toujours un peu des ateliers, il y avait toujours un truc autour du frein. Enfin, c'est marrant, c'est revenu. Et du coup, ça, c'est ce qui ressort le plus de notre association, parce que c'est ce qui est le plus simple à organiser pour nous et le plus évident quand ça se passe, quoi. Je sais pas, Sophie.
Oui, et aussi pourquoi on fait ça, enfin, même par rapport à des questions d'actualité, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est incroyable le nombre de vêtements qu'on jette. Enfin, on peut voir des piles de vêtements qui pourraient encore se porter, être jetés. Donc moi, ça me semble aberrant qu'il y ait autant de déchets textiles, et ça rend tellement de gens heureux de les récupérer, de les réutiliser. Alors pour moi, c'est juste évident d'organiser ce genre d'événement, quoi.
Ça, on posera la question un peu plus lentement après, dans la deuxième partie, quand on fera ce dézoom. Et là, pour continuer un peu sur votre association, vous parlez beaucoup de Coco Velten, des friperies, finalement d'un écosystème dans lequel vous vous inscrivez. J'aimerais savoir comment est-ce que... quels sont les rapports que vous avez avec les autres structures qui peuvent... soit proposer des lieux ou des activités, ou faire la même chose, ou parfois faire des choses en collaboration sur des projets communs.
Moi, je peux peut-être... On a eu plusieurs choses différentes. Par exemple, ce qui n'a donc rien à voir, c'est... rien à voir, mais qu'à avoir. Le lycée Saint-Charles, des étudiants qui nous ont appelés pour nous dire « On aimerait organiser une troquerie, échange de fringues dans notre lycée. Comment vous faites? Nous, on a pensé à faire comme ça. » Un peu comme des consultantes de troquerie, finalement des experts de l'organisation de la troquerie. On a été hyper flattés, mais surtout hyper contentes de parler avec des étudiants et étudiantes qui nous parlent de marque, qui nous disent comment je fais pour échanger ma marque alors que je vais l'échanger contre quelque chose d'autre et en même temps je m'en fiche. Il y avait vraiment un truc intéressant, et ils vont le refaire année après année parce que ça a hyper bien marché. Ça, c'est un premier exemple. Il y a le faire dans des lieux qui sont certes des gens qui sont déjà dans des démarches sociales où ils veulent créer du lien, donc type Coco Velten, le couvent, c'est des tiers-lieux, ils sont là pour ça. Et ou des entreprises. Là, c'est un peu vers ça qu'on aimerait se tourner aussi, en entreprise, mais même dans des grosses entreprises, de personnes qu'on ciblerait peut-être pas, un comptable qui veut échanger sa chemise bleue contre une autre chemise bleue. Enfin, l'idée, c'est quand même d'aller voir plus loin et du coup, de le développer, pas que à l'échelle, nous, notre entre-soi, on a tous un entre-soi, mais aussi à tout âge, tout type de personnes. Et... Mmh. Je pense que ça répond
oui, tout à fait.
La question.
Et pour continuer sur le fait de créer cet écosystème et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dedans, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui peuvent avoir peur, notamment pour des questions d'hygiène pure, de se dire on va ramener des punaises de lit chez moi, c'est l'enfer. Donc il suffit d'un vêtement et ensuite je suis ruiné et je vis une vie horrible pendant 6 mois. C'est souvent un blocage assez fort avant de rentrer dans une friperie. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est vrai que ça nous questionne parce qu'en fait, il y a un moment donné dans notre vie où on a voulu créer une boutique de troquerie, de fringues. Et du coup, la question s'était posée de « Ah, alors attends, parce que puce, punaise, peu importe quoi, saleté, les gens, enfin, on ne sait pas quoi ». On avait pensé mettre une machine à laver ou une sécheuse, enfin du coup une sécheuse, oui, je ne sais plus comment dire, en tout cas à l'entrée pour que les vêtements soient traités. Finalement, on est plutôt parti du principe de laisser les gens venir avec cette hantise-là, quitte à nous en parler, mais tout en disant en fait nettoie-les quand tu rentres chez toi. Parce que finalement, tu pourrais très bien partir d'un magasin, poser ton sac par terre à côté d'une poubelle où il y aurait des puces de lit, puis ça arriverait chez toi aussi. Donc en fait, on a résumé ça en se disant, nettoie les vêtements quand tu rentres à la maison. Puis,
chacun prend sa part de responsabilité dans l'achat.
Parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas fait à l'échelle d'une boutique parce que ça nous paraissait compliqué.
Bon, après tout, on sait que beaucoup de vêtements qui viennent de Chine ne sont pas forcément... plus propre ou avec tous les pesticides ou en tout cas toutes les substances chimiques qu'on utilise pour faire ces fringues, ouais, effectivement c'est pas plus bénéfique pour le corps, pour la peau.
Effectivement c'est en ça que le seconde main est intéressant aussi. Enfin, du coup si on rebondit là-dessus, effectivement ça évite, c'est des vêtements qui sont déjà portés plusieurs fois, des tissus qui sont déjà passés, tannés. Après, pour les questions d'hygiène, mais même pendant le Covid, ça s'est présenté à nous. Des gens qui nous disaient, je me nettoie les mains, je fais comment, si quelqu'un a nettoyé le vêtement avant, en fait, on est passé avec un principe de tu mets des gants, tu les laves chez toi. Enfin, après, c'est vraiment chacun prend sa part de responsabilité dans ce qu'il ramène à la maison, tout en sachant que nous, on est consciente que ça peut arriver. Donc, moi, je sais que je les lave, les fringues.
Une auditrice, un auditeur qui ne sait pas comment les laver, c'est quoi les petits conseils c'est 90 degrés, je trouve
ça. Ouais, c'est ça. Ouais, normalement, en fait, c'est laver au plus chaud possible. Sinon, c'est, en fait, sans même laver, c'est sécher des vêtements, donc les faire sécher au plus tôt, enfin c'est 60, je pense que
oui, 60,
peu près, sinon ça réduit, et sinon au plus froid.
Au congélo.
C'est l'inverse, au congélo, donc l'un ou l'autre.
Ok. Mm.
Et au-delà du troc, est-ce que dans le concept de la recyclerie aussi, est-ce que vous organisez des ateliers autour de la couture, de la tannerie, en allant un peu plus loin dans le concept
Oui, tout à fait. En complément à nos troqueries, on essaie d'organiser des ateliers où on peut apprendre à faire quelque chose en lien avec le vêtement. Pour un exemple concret, on a été appelé par Zero Waste la dernière fois, c'était chez Zoomaï, et on a invité une brodeuse qui est venue apprendre aux participants à broder des fleurs sur leurs nouveaux vêtements troqués.
Génial.
On lui a demandé aussi si elle était dans l'idée là d'être éco-responsable, d'utiliser des choses qu'elle aurait aussi récupérées. Et en effet, elle avait récupéré ses fils, par exemple, à la réserve des arts. Donc il y a vraiment un vrai système, une vraie économie circulaire autour de même cet atelier, en complément à nous, notre troquerie, quoi.
Génial.
Et du coup, là, vous parliez aussi, donc il y avait la troquerie, puis vous parliez des événements rigolos. Est-ce que vous avez
rigolo. La troquerie, c'est rigolo. Hein.
Bah, franchement, je l'ai bien compris qu'en fait, c'est rigolo partout. Ouais. Mais je voulais quand même vous amener à ce que vous puissiez un petit peu présenter ces événements. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'il y a des thématiques par événement? Comment ça se passe? C'est où? C'est quand la prochaine? Je pose plein de questions, mais
En fait, on a pour ambition, envie, et bon ben, on s'est installé à Marseille il y a 4 ans, Covid, tout ça. On voulait organiser des thés dansants, des guinguettes éphémères, des bals populaires, faire des trucs un peu drôles. Et puis finalement, on organise des booms. Bon, bah ça marche vachement bien parce que là, on est censé en organiser une en décembre, mais on remettra peut-être. Vraiment le lien à ce moment-là parce que on est en train de le valider. Mais une boom, la dernière fois on avait fait une années 90, chaque personne mettait sa chanson sur un bout de papier et de façon complètement déjantée on passait la musique derrière un ordinateur en mode DJ du coude. Donc c'était vraiment on piochait les chansons des gens et tu danses sur ta chanson finalement à un moment donné, et c'est assez simple, sans prétention, c'est surtout l'idée à la base.
Et si je peux me permettre, ma partie préférée de cet événement a été la création d'une énorme boule disco, faite à partir de CD récupérés.
Notre spécialité.
On
a été invité dans un festival pour la refaire. Et il y a d'autres personnes qui nous ont contactés là pour pouvoir le refaire l'été prochain dans d'autres événements. Donc je pense qu'on est devenus des spécialistes de la... Notre but, c'est de faire la plus grosse boule disco à partir de CD récupérés.
Et comment vous faites? Vous cassez les CD en petits morceaux?
Ouais, on les découpe.
Vous les découpez?
On les fait découper même.
Ouais, c'est voilà, on fait participer tout le monde.
Ça se coupe bien un CD?
Ah, ça dépend de la nature du CD. On a appris beaucoup grâce à cet atelier. Les CD avec les films illégaux se coupent moins bien que les vrais films originaux.
Ouais. Exact, déjà. Et selon la qualité, le bleu est moins bien que le argenté, que le doré.
Il y a plein de couleurs dans les CD. Ouais.
Donc du coup, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'ils ont des CD à déposer, ils peuvent.
Exactement.
On découvre aussi l'aspect joyeux du réemploi et le fait que cette économie circulaire alternative est source de joie. Et alors du coup, bon, là, on est aujourd'hui le 12 octobre 2022. Nos auditrices et nos auditeurs sont un petit peu frustrés peut-être de se dire « Ah, mais on n'a pas la date exacte de cette prochaine soirée qui serait éventuellement en décembre. » Comment est-ce qu'on pourrait vous retrouver si jamais on a envie de savoir
On ne va pas être original, hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram.
Bah oui, de toute façon, c'est nos supports, donc c'est clairement ça. Ils sont gratuits, on les aime bien.
Et on répond très vite s'il y a des questions.
Bon, eh ben, on espère que vous aurez des réponses. Il y a 3 semaines, c'est la fresque du climat qui est venue ici pour faire un appel à inscription à des fresques. Ils ont eu 14 inscrits à la sortie de leur émission. Donc, on ose espérer que vous aussi, vous recevrez des messages à la sortie en disant on a envie de faire des boules disco.
Avec plaisir, faisons des boules disco tous ensemble, c'est parfait.
Et bah ouais, et ça, alors je sais pas si on va écouter du disco, ce que je propose c'est qu'on fasse la pause un petit peu en amont parce qu'on aura plein de questions à la sortie sur des choses un peu plus générales. Donc je sais pas du tout, moi la musique que vous nous avez fait écouter, je vous la laisse nous la présenter.
Ça dépend si vous êtes fan ou pas des années 90, mais oui, on est plutôt pas mal disco dans l'idée.
On passe de la boule donc disco.
Le titre,
disco.
C'est
T'es OK, t'es bas, t'es in, donc c'était OK d'Otawan.
OK, à tout de suite.
À toute. We'll be right back.
vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4. Nous sommes toujours l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires à Marseille et ses environs, avec Sophie et Karine qui nous présentent l'État Nantes. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous avons envie de pouvoir faire un petit dézoom et notamment de pouvoir inscrire tous les travaux et les engagements que vous portez dans le vaste monde dans lequel nous nous inscrivons. Et là, pendant la pause, on était un petit peu en train de discuter de modèles économiques. Et c'est souvent, on dit souvent que l'argent étant le nerf de la guerre. On peut commencer un petit peu par là, avec à la fois la façon dont vous arrivez à trouver votre équilibre. Et peut-être qu'on peut commencer par ça. Et puis ensuite, réfléchir à des modèles alternatifs pour tous les autres personnes, toutes les autres personnes pour qui vous proposez ces services fort utiles. Donc là, tout de suite, on parlait un petit peu de subventions. On n'est pas obligé de parler très longtemps de ces questions-là, mais quand même de savoir comment est-ce qu'on organise un événement comme ça, comment est-ce que ça tourne, comment est-ce que ça se retrouve d'une année sur l'autre.
Je veux bien commencer juste en disant que comme ce n'est pas une organisation trop demandante pour nous, parce qu'on a l'habitude d'organiser des événements, c'est des événements qu'on fait sur des formats courts. Ça dure 4 heures, donc ça prend 4 heures de notre temps, une fois tous les 6 mois, vraiment, puisqu'on en fait deux par année. Du coup, on le fait bénévolement, nous-mêmes, fondatrices et tout le monde, parce que moi, je suis toujours contente de repartir avec un short léopard s'il faut, quoi. Enfin, je suis très contente de me payer avec un short troqué ou pas troqué ou récupéré parce qu'il va être donné et que je suis... Voilà. Et je sais que c'est mon cas, mais c'est le cas de Sophie, c'est le cas d'Océane, c'est le cas de Céline, c'est le cas de toutes les personnes qui viennent nous prêter main forte. Donc économiquement, on est plutôt sur du bénévolat de manière générale, sachant qu'on fait nos événements dans des lieux qui eux-mêmes tiennent leurs entrées ou leurs bars. Et donc notre idée, c'est que ça soit gratuit pour les gens qui y participent. Donc de toute manière, on ne va pas pouvoir vraiment se faire de l'argent. Il peut y avoir des adhésions, mais... qui met aujourd'hui 20 euros dans une adhésion. Moi, pas. En tout cas, je n'ai pas les moyens pour et je ne le ferai pas vraiment. Mmh. Et on ne forcera personne à le faire non plus. Donc, il y a ça. Après, effectivement, Sophie, qui est un peu la pro des recherches de mécénat et de subventions, il y a des choses qui se passent parfois. Et oui, on peut demander des aides.
Oui. Je ne pense pas qu'on va rentrer dans le détail.
Non, mais savoir que ça existe.
Ça existe, oui.
Parce que, en fait, quand on a envie de se lancer, à un moment, on est face à ces questions-là, face à des questions de logistique, ou simplement faire perdurer une idée sur le temps long nécessite d'avoir quelques moyens. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas ce qui est intéressant, mais ça peut donner des idées à celles et ceux qui veulent se lancer. Et pour rester sur ces questions économiques, alors là, par rapport à vous, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'essayer de construire ensemble comment est-ce que ce que vous proposez s'inscrit dans des circuits un peu alternatifs, ou plutôt que d'être sur des modèles de production, achat, consommation et ensuite déchets, en fait, ça s'inscrit dans des circuits qui sont à la fois circulaires pour les vêtements, mais aussi dans des formes un peu de permaculture de vie où les personnes qui rentrent là-dedans disent moi je vais troquer un vêtement contre quelque chose d'autre et je vais faire tel service et en retour je vais avoir ça, ce qui permet peut-être de contourner certains modèles économiques traditionnels et d'entrer dans des économies qui sont plus collaboratives et qui permettent d'être plus sobre quand on réfléchit en termes de société et pourtant tout en à la fois en ayant la joie de faire des boules disco et de passer de bons moments, et puis aussi de trouver des choses qui sont tout à fait convenables et même sympas pour nous, quoi. Est-ce que vous avez une petite réflexion sur tous ces enjeux?
Oui, alors ça c'est sûr, parce que ça nous arrive tout le temps, d'autant que nous, même dans nos vies, on fait de la récup de bouffe, au marché, on fait du glanage, enfin c'est pas que sur le textile, mais ça nous est... Je peux donner un exemple. Ça nous est arrivé pendant une des troqueries qu'une madame vienne avec un gâteau en nous disant que sa fille avait envie de prendre une jupe là-bas, mais qu'elle ne savait pas comment. Et donc, elle est arrivée avec une part de gâteau et ça marche, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'idée, c'est d'oser échanger et de se dire que ça soit le textile. C'est un prétexte au troc général de savoir-faire. Donc, ça rejoint ce que tu disais. Si la société fonctionnait, nous, aujourd'hui, plus dans l'échange et de savoir-faire et d'objets et j'inclus le textile et de plein d'autres choses, ça marcherait sans une économie financière. Je pense que ça serait plus simple parce qu'on s'en rend compte quand ça se fait sans argent, la lourdeur est moins présente. Et, donc,
Et puis, il y a le lien social tout court qui est quand même plus sympa. Je préfère échanger un vêtement avec quelqu'un, discuter avec, rigoler avec, qu'aller dans une boutique H&M. N'allez jamais chez H&M. et acheter... acheter son vêtement et passer à la caisse. Il n'y a plus de lien. Il y a même des caisses automatiques maintenant. Donc, nous, c'est quand même recréer un lien finalement qui, je trouve, se perd beaucoup.
Okay. Société du lien. Est-ce que vous sentez que vous arrivez à semer des graines d'imaginaire dans les esprits de personnes qui peuvent être un peu loin de ces questions ou par exemple qui sont juste sur le côté « j'ai envie de trouver un vêtement sympa ou alors pas cher » mais sans du tout être dans toute cette logique-là et que vous arrivez à les accompagner progressivement vers cette conscience de l'intérêt du troc?
Oui. Parce qu'en plus, on a eu en exemple des gens qui n'avaient rien à faire, dans le sens, ils sont passés par là, il y avait un événement, une troquerie, donc. Et « Ah, c'est marrant, vous faites des échanges de fringues. Ah non, mais moi, jamais je ferais ça, j'aime trop... » Et en fait, en parlant, tout simplement, on est tous des personnes sensées, on peut réfléchir et échanger. Et ce partage-là, juste de « t'es pas obligé d'échanger un fringue, mais on peut juste échanger nos paroles et parler de pourquoi moi je fais ça, pourquoi toi ça te paraît bizarre, et en même temps, en bout de ligne, est-ce qu'on n'arrive pas à se rejoindre sur « on consomme trop
» Finalement, ça réveille des consciences.
Bah ouais, et ça a réveillé les nôtres aussi. Hein. Enfin, moi, j'ai acheté aussi neuf par moment, même si j'ai toujours préféré la friperie, les échanges, ça m'est arrivé et en fait maintenant ça m'arrive peut-être une fois par an et encore je suis gentille quoi. Donc c'est aussi à soi-même et dans le partage d'échanges tout court, échanges de paroles, ça permet de se conscientiser pour la suite. Donc le textile est un exemple au milieu du reste, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous parle de nous parce que ça nous va, mais...
Ouais, et puis parce que c'est concret aussi. Enfin, souvent, quand on arrive sur ces questions de transition environnementale et solidaire, comme tout est interconnecté, on peut vite se perdre et puis se dire « oulala,
en fait,
je sais pas par où commencer, c'est trop compliqué », ou alors ne pas vraiment se sentir démuni, alors que quand on prend par le bout d'un aspect concret, parce qu'effectivement, il y a plein d'autres aspects, le vôtre en est un, on commence à prendre la lorgnette pour rester dans la métaphore du vêtement, le bout de la lorgnette, de se dire en fait il y a des modèles alternatifs par rapport à ça et passer un bon moment, et puis ensuite peut-être se dire si jamais je reproduis le schéma, alors peut-être pas tout à fait à l'identique, mais quand même aller chercher les alternatives également sur la façon de me loger en se mettant en colocation solidaire, ce qui a été mon cas pendant 2 ans à titre personnel. D'une façon, sur la façon de se nourrir, en se mettant dans des AMAP ou avec des réseaux aussi d'entraîne. Il y a le Super Cafouch qui existe ici à Marseille. Et puis ensuite, sur les questions de l'énergie. Et puis on peut décupler les sujets. Et le vêtement est quelque chose qu'on porte tous les jours, parfois de façon complètement inconsciente. Mais quand on commence à conscientiser son acte, alors là, on arrive sur quelque chose d'autre. Et vous êtes cette porte d'entrée.
Ah bah oui, parce que écologiquement, la création d'un vêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus éco, tout court, écologique. Donc effectivement, c'est une grosse porte d'entrée. Ouais.
Le textile, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Hein.
Ouais. Ouais.
C'est énorme.
Énorme. Et polluante et avec les déchets, en plus de ça. C'est-à-dire dans la création jusqu'aux déchets. Retrouver sur des plages, blablabla. Donc
et sans parler des gens qui
des conditions, de travail.
Moi, je fais que penser aux Ouïghours, par exemple, quand je vois des marques de vêtements que j'affectionne pas particulièrement. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse accepter tout ce qui se passe en coulisses et acheter comme si de rien n'était sans savoir d'où ça vient.
Probablement cette espèce de refoulement qu'on a, où on a conscience et en même temps on n'a pas trop envie de regarder.
Du déni.
Et puis dans une société rapide où on se dit non mais consommer plus. Et puis à un moment où en fait on sort un peu du circuit, où on est pris dans les tripes, on commence à conscientiser ses actes. Et on peut à la fois être complètement saisi de terreur du monde dans lequel on vit et en même temps de se rendre compte du pouvoir qu'on a. Parce que si à chaque acte qu'on fait, dans ce que j'achète, pour manger, pour me vêtir, pour avoir de l'électroménager chez moi, si jamais je suis seul, si jamais je suis avec d'autres. En fait, on a du pouvoir tout le temps, puis par la parole, et puis par les échanges, et puis vous faites, comme vous dites, du lien. Et donc du coup, ça aussi, c'est effet papillon, avec quelque chose qu'on va semer dans l'esprit de quelqu'un, qui lui-même va pouvoir aller le répéter,
et ainsi de suite. Oui, c'est petit à petit, hein,
faire ce qu'on peut à nos échelles.
Exactement.
Mais on est quand même tous acteurs et actrices de ce qu'on fait. Et en vrai, à partir du moment... L'effet papillon, c'est une super belle image. Parce qu'à partir du moment où on bat un peu de l'aile, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres papillons autour. Hein, et donc, d'autres personnes qui nous donnent d'autres idées, qui nous permettent d'aller vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Quoi. C'est, de manière générale, si on veut vivre avec très peu... faire de la récup de manière générale, et, c'est faisable, hein. C'est à notre échelle parce qu'on a tellement de mis en place des moyens, pas nous, hein, pas nous personnellement, mais les usines, le monde plus capitaliste dans lequel on fait partie, on peut clairement vivre avec moins, bien, en vivant bien et en avançant, ça c'est certain.
Oui, moi, ça me fait penser au petit village drômois où habite ma maman. Et elle m'a expliqué que dans son village, effectivement, il y a des échanges de troc, de savoir-faire.
Ouais.
Elle est prof de yoga, il y a une amie qui est kiné, une autre qui travaille dans un centre de jeunes, une autre qui est prof de danse, de tango. Et du coup, elle s'échange des moments de vie qui font du bien aussi. Et je trouve ça génial.
Même personnellement, en fait, moi, j'ai plusieurs métiers. Mon premier, je suis coiffeuse et je fais des trocs. Je coupe des cheveux ou je suis payée à prix libre et ça depuis 20 ans maintenant.
Oh,
j'ai
wow.
jamais voulu faire autrement. Donc, on m'échange de la réflexologie des pieds contre deux coupes de cheveux. Et ça fonctionne très bien. Tout le monde s'y
retrouve.
Compris à
Marseille, parce que là, on parlait de la Drôme.
Oui,
à Marseille. On a eu un cours de céramique il n'y a pas longtemps, nous. Moi, en échange de recettes et d'un shampoing solide que j'aime bien fabriquer et Karine d'une coupe de cheveux, donc ça peut se faire même en grande ville.
Super. Et alors du coup, parce que là je vois le temps qui passe, parce qu'après il y aura la lecture de la lettre, dans les grands sujets dont on sent qu'ils vous tiennent à cœur, on a parlé de la question du réemploi avec vraiment la portée environnementale, et j'ai aussi entendu pas mal de petits éléments qui laissaient porter que vous aviez aussi un engagement plus sur le plan de féminisme, stéréotypes de genre, notamment avec les couleurs, en disant c'est une seule couleur, enfin on trie par couleur. Même l'expression c'est ok que j'ai entendu à plusieurs reprises. Alors peut-être que c'est aussi parce que vous avez vécu au Québec que vous l'employez souvent, mais cette question de c'est ok fait partie de ce vocabulaire qui est employé quand on est intéressé par ces questions. Est-ce que vous avez une réflexion sur le sujet, des causes que vous essayez aussi de porter sur ces volets-là?
Moi, j'aurais même tendance à dire, est-ce qu'on a quelque chose... Enfin, je vais dire en on, parce que je peux parler pour les filles aussi. On est plutôt du genre à arrêtons de nous poser des questions. On est tous là, des êtres humains, humaines, et point. Et c'est même plus des questionnements, c'est plus respirons et laissons-nous vivre sans se cantonner à des genres, des cases, des boîtes, des... Et donc, c'est même au-delà de ça, c'est effectivement, il y a le Québec qui entraîne ça parce que ces notions-là sont plus amenées depuis plus longtemps peut-être au Canada et particulièrement au Québec, qui en plus est un territoire plus féministe que la France, tout simplement. Mais de manière générale, moi, j'aimerais juste qu'on même sans se poser de questions, que tout le monde puisse être ce qu'il est, en fait, sans chercher plus loin. Et je sais que les filles, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que peut-être souvent, on a besoin de rigoler et de dire que c'est OK.
C'est beau. Là, presque, ça me coupe un peu la voix. Parce que je ne sais pas quoi répondre de plus que de dire oui.
C'est OK.
C'est OK, ouais. Est-ce que tu as envie aussi de réagir de ton côté?
Non, moi, je pense que Karine l'a très, très bien dit. C'est OK.
On en parle souvent.
Tout est OK.
Et super. Alors là, je suis moi-même en train d'essayer de savoir, parce que ça aurait pu vraiment être une conclusion d'émission.
Oui,
qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Mais donc, c'est vrai que finalement, ce que vous portez...
C'est plus que du troc.
C'est plus que du troc, ouais. Et puis, même si on n'est que sur le vêtement, et même si on n'est que sur deux troqueries par an, en fait, ça vient brasser beaucoup de questions de société. À la fois sur les plans matériels, on va dire, par rapport à la surexploitation de nos ressources, et également sur le plan humain, sur les rapports qu'on a envie d'avoir les uns avec les autres. Et peut-être que d'une façon hyper concrète, vous arrivez à proposer des modèles qui sortent des logiques de domination dans lesquelles on s'inscrit trop souvent dans la société. Tout à l'heure, tu disais capitaliste, on peut toujours après l'appeler comme on veut, technos-industriels, comme vous voulez, mais qui crée en fait des pyramides. C'est beau que vous. Je sais pas si c'est si conscientisé parce que comme vous dites, à un moment vous avez juste eu envie de vous lancer par rapport à une passion qui est la vôtre. Mais en tout cas, c'est aussi la lecture que j'en fais quand j'écoute ça.
Ouais, justement, tu parles de pyramide, on aime bien les cercles. On se l'est dit il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on s'est fait une réunion cet après-midi. Parce que peut-être que quand même, on a, en dehors des Tanantes, on a notre association, mais on est en train de créer un lieu qui va ouvrir en 2023, qui s'appelle le plan de A à Z. Et on n'en parlera peut-être pas là parce que ça va être trop long et qu'il faudrait qu'on s'en reparle à un autre moment. Mais en tout cas, l'idée, c'est un lieu autour de toutes ces notions-là. Anti-gaspi, simple, cantine, la bouffe, ça fait plaisir à tout le monde. Un bar, on arrête de se prendre la tête. C'est simple, les choses, en fait. Si vraiment, on se met autour d'une table et qu'on rigole.
C'est beau. Alors du coup, rendez-vous en 2023, mais on comprend que vous restez encore un peu mystérieuse.
On se donne rendez-vous avant, non ? Pour une troquerie.
Bah alors ouais, mais vous avez pas donné la date tout à l'heure.
C'est vrai. Bon, on est censé être autour du, allez, on va dire le 10 décembre, si on reste dessus.
10 décembre avant les fêtes.
Ouais, exact.
Et vous allez en organiser plus dans l'année, vous avez, compte tenu de la demande ou du succès des événements, ou vous restez sur ce format de 2 événements par an.
On préfère rester sur le format 2 événements par an. Ouais. Parce que ça crée un engouement aussi, tout simplement. Et notre temps consacré reste, même si ce n'est pas beaucoup d'organisation, c'est bien de le faire bien et de le faire vraiment par envie, quoi. Et si ça devenait tous les mois la récurrence, souvent, ce n'est pas une grande réussite dans l'événementiel, ce genre d'événement, en tout cas. Et après, on n'est pas à l'abri d'organiser un marché de Noël aussi, comme l'an dernier, d'ailleurs. Voilà.
Parce que vous êtes sur Marseille, vous êtes les seuls à organiser ce type d'événement de...
Des troqueries ?
Ouais. Bah non, il y a les lycéennes.
Ouais, il y a les lycéennes et il y avait magasin gratuit à un moment donné aussi, si vous avez envie de regarder. On ne les a jamais rencontrés officiellement, mais on était allés à leur événement, mais on avait eu du mal à se croiser. Et eux, ils arrivent avec des vêtements. C'est plus... ils arrivent avec des stocks de vêtements et...
Les
gens sont moins acteurs, mais en tout cas, ils ont une petite buvette. C'est toujours dans des lieux sympas ou dans des squares aussi. Je ne sais pas s'ils sont encore actifs, mais en tout cas, ils existent.
Et c'est beau de savoir qu'il y a toutes ces choses qui existent et qu'on peut vous retrouver facilement. Merci à toutes les deux. On n'a pas tout à fait fini l'émission. On vous dira officiellement merci à la toute fin. Ce qu'on vous propose, c'est de passer à la dernière partie d'émission, qui est en fait en lien d'une façon assez directe avec ce que vous faites, qui est sur un projet sur lequel je me suis investi à titre personnel, qui s'appelle la Cité des Transitions, qui vise à fédérer des structures, des associations, des organisations qui œuvrent aux transitions environnementales et solidaires à Marseille, dans le but de passer à l'échelle et que cette ville puisse se donner les moyens de ses ambitions en fédérant les énergies et les initiatives dans cette espèce de plateforme d'animation qui fasse une espèce de révolution joyeuse.
Ah ouais.
Et la lettre est adressée, c'est une lettre ouverte qui est adressée à monsieur le maire de Marseille, mais aussi d'une façon plus générale à tous les Marseillaises, toutes les Marseillaises et tous les Marseillais, dans le but que ça puisse être un moment, parce que le lancement est proche, le 21 octobre prochain, et qu'on puisse se retrouver autour de ça. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais vous faire la lecture de cette petite lettre.
Avec plaisir.
Ouais, plaisir.
Chips.
C'est une lettre qui s'appelle « Il est des promesses qui ne tiennent qu'à un soutien ». Monsieur le maire de Marseille, vous pourriez vous attendre à recevoir une lettre sur des arbitrages techniques ou sur un poste à pourvoir. Pourtant, ce soir, je prends la plume pour vous parler des gens. D'Amina de la Castellane, de Kader de Saint-Mauron, d'Ikram de Belzins, d'Eliès de Félix Piat, de Manon de la Pomme, de Younes de la rue Curiole, et plus encore, pour vous parler d'une promesse. Pour commencer, laissez-moi esquisser quelques portraits. Amina est une jeune femme pleine d'envie et de caractère. Cousine lointaine de Zidane, elle a perdu tragiquement son frère à l'âge de 16 ans pour des histoires de drogue. C'est avec passion que nous avons réalisé notre service civique ensemble à Félix Piat. Kader est un vaillant travailleur social, qui fait des ateliers artistiques avec les enfants du quartier de Saint-Mauron. Avec lui, nous avons fait une fresque du quartier idéal de Félix Piat. Ikram est une jeune personne de 3e que j'ai accompagnée avec La Fève dans sa scolarité. J'ai été touché par sa sensibilité et son talent certain pour le dessin avant qu'elle ne soit hospitalisée, car ne vivant pas ses aspirations profondes dans une famille qui ne la comprend pas. Elias est l'éducateur star des jeunes de la Maison pour tous de Félix Piat. Il sait leur parler avec des mots justes malgré leurs difficultés, après avoir commencé par l'essentiel, les avoir écoutés et pris pour ce qu'ils sont. Il a su m'ouvrir les portes du quartier pour travailler avec ses habitants. Manon est une grande amie qui a toujours su me conseiller malgré sa vie très compliquée de son côté. Jeune femme à la réflexion profonde et douce, elle a fini par quitter Marseille après avoir été exploitée par un patron véreux d'un snack. Younes a été en colocation solidaire pendant 2 ans avec moi. Tout droit venu d'Algérie pour poursuivre ses brillantes études à l'AMU, il devait travailler dans un restaurant jusqu'à 3h du matin pour les payer. Pourtant, il a toujours le cœur sur la main lorsqu'il s'agit d'aider les autres dans des actions de solidarité que nous avons menées ensemble pendant 2 ans, rue Curiole et au Théâtre de l'Œuvre. Il fut mon petit frère. Il est pour moi un grand modèle d'altruisme. Je pourrais encore vous parler de Bonnie, de Mathieu, d'Emma, d'Eddy, d'Omar, de Kitri et de tant d'autres. Vous parler de cette myriade de gens, de personnes si différentes, qui font la richesse inouïe de cette grande fresque du monde qu'est Marseille. De ces destins qui s'entrecroisent, se nouent, se lient, alors que rien ne les prédestinait à se rencontrer. Simplement, c'est la magie unique de notre ville, de ce lieu de rencontre, de passage entre les mondes, les époques et les civilisations. Nous vivons dans un port où certains s'amarrent, où d'autres ne sont que de passage. Certains y laissent leur dernier souffle, d'autres y naissent au monde. Je suis un marin ayant suffisamment bourlingué pour savoir ce que je dois à ce port d'attache qui m'a révélé aux autres et à moi-même. Monsieur le maire, j'aimerais vous tracer les traits de ces visages avec mes mots, vous faire ressentir la chaleur d'un rire dans le souffle d'une phrase, vous faire vivre la désolation d'un drame dans un silence. J'aimerais que vous soyez certain de l'amour invraisemblable qu'on a échangé, du choc des cultures, de la beauté de Marseille qui a rendu cela possible dans son cadre splendide et brutal, de toutes ces choses impalpables qui font le sel de la vie. Mon intention est claire, je souhaite que vous ayez la chair de poule. Toutes ces personnes, tous ces visages, dont je vous ai dressé le portrait, repartent sur leur trajectoire avec leurs espoirs, leurs peines et leurs craintes. Avoir trop chaud l'été, trop froid l'hiver, être exploitées au travail quand elles en ont un, continuer le deuil de la perte d'un frère parti bien trop tôt. J'aimerais vous parler de la promesse que je leur ai faite, que je ne les abandonnerai pas, jamais. J'aimerais vous parler du désir ardent que j'ai au cœur de participer à embarquer toutes ces personnes dans la grande aventure de l'adaptation sociale au bouleversement du monde, à commencer par le drame écologique. Je leur ai promis que je reviendrai dans 5 ans, en ayant fait tout mon possible, avec les cartes qui sont les miennes, pour améliorer le cours des choses. Je n'ai pas vu toutes ces histoires de meurtres, de coups d'extincteur, de brûlés au chalumeau, de jeunes sans avenir, de dealers tués à 16 ans, de pédophilie, de dépression, d'incendie, de jeunes exploités, d'été caniculaire, de places jonchées de plastique, des gens qui se battent sans relâche, pour ne pas apporter ce que je sais faire, pour rester passivement à ma place et attendre cyniquement mon tour. J'aimerais vous parler d'une réponse à leurs problèmes par eux et pour eux, une façon de transcender les angoisses du quotidien et l'enjeu considérable de la survie de l'humanité. Il se trouve que pour tenir ma promesse, cela fait 1 an et demi que je me suis passionnément engagé sur le projet de la Cité des Transitions. Et j'avais déjà eu l'occasion de vous écrire à ce sujet. Ce projet vise à devenir le corps incarné d'une transition coordonnée par et pour les Marseillaises et Marseillais. Ce sera la plateforme d'animation des structures qui œuvreront à la mise en place de l'agenda Marseille-Ville plus verte. Ce projet réunit 100 de structures qui ont à cœur de travailler ensemble, d'être pleinement associées à la réparation de notre ville. Ce sera un espace qui vise à embarquer toutes les citoyennes et citoyens, en y associant toute la diversité des structures, associations et collectifs. Cette plateforme portera les projets d'écologie populaire qui ne pourront avoir autre chose que la coloration bouillonnante de Marseille. Aujourd'hui, tout est prêt. Statut, modèle économique, bureau, communauté de 100 structures, premier lieu d'atterrissage, feuille de route, pilier opérationnel, premiers investisseurs. Il ne manque qu'un soutien sans faille de la mairie pour que de cette partition, soudain, jaillissent les premières notes de musique. Ce projet, je m'y suis investi parce que j'y crois. J'ai remué ciel et terre, été dans les quartiers, échangé à plusieurs reprises avec le président de la République, fédéré des 100 de structures, bataillé avec les services de la mairie pour avancer, rédigé ses statuts et sa feuille de route, et mis en lumière leur travail à la radio comme ce soir. Me suis sacrifié dans mon confort, car c'est là que vibre mon cœur. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts personnels de qui que ce soit, autre que notre intérêt collectif. Si ma démarche est résolument politique, elle n'en est certainement pas partisane. Aujourd'hui, monsieur le maire, j'ai besoin de vous pour tenir ma parole. Ce projet a besoin du soutien politique et de l'intérêt certain que vous y trouverez pour recoudre la ville. Il ne reste plus qu'à ce que vous l'appuyiez avec force et conviction lors de son lancement le 21 octobre prochain pour créer l'état de confiance nécessaire à son succès. Cela permettra un gain de temps, d'énergie et de souplesse très précieux pour mettre en place l'agenda Marseille-Ville plus verte avec lequel la cité œuvrera main dans la main. J'ai besoin de vous pour faire rugir le souffle de la grande épopée, pour raconter le récit d'une ville qui se lève dans sa dignité, qui trouve sa fierté d'avoir réussi à jouer avec son âme si singulière, en se révolutionnant pour continuer, simplement, à être. Pour que demain, il y ait encore des rires dans les parcs, des notes de piano dans les théâtres et des chagrins d'amour passagers dans le cœur des adolescents. Pour que la rosée soit encore fraîche et verte sur les égalades, au début du printemps. Monsieur le maire, je me tiens à votre disposition et vous prie d'agréer l'assurance de mon profond respect. Marin Maufray, citoyen engagé sur le projet de cité des transitions de la ville de Marseille.
Merci Marin pour merci. Cette magnifique Bravo. Lecture et cet engagement énorme.
Vraiment. Oh oui.
Je crois qu'on va terminer sur...
C'est maintenant nous qui sommes
bougés. Ça m'a fait une... Ouais. On en revient sur... Ouais, il y a besoin d'infuser tous ces mots, toutes ces phrases, je crois, ouais. ce ouais. soir.
Eh bien, merci de m'avoir laissé lire cette petite lettre qui me tenait à cœur. On vous remercie aussi d'être venu, parce qu'en l'occurrence,
oui,
c'est aussi pour
merci
vous.
Hein,
on pourrait aussi rajouter Corinne, Sophie et puis tous les autres.
Oui,
mais... Karine, pardon. dans cette grande liste, dans cette myriade-là. Et voilà.
Oui, merci Karine et Sophie d'être venues et nous avoir présenté l'État Nantes.
Ben, merci à vous de nous avoir accueillis au sein de Radio Galère de manière générale. Et c'était très agréable.
C'était avec un grand plaisir et j'espère même à bientôt.
Mais ouais. Oui, en décembre, ouais. on sera là pour peut-être le 10. Ou...
Ouais. On vous fera des blagues à l'entrée.
Ça, exactement, on l'espère. Bonne soirée à toutes et tous.
Très belle soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.